Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine de ce 26 avril 2017, mercredi. Hélène Denis qui vous accompagne et qui est bien entourée. Daniel Lachance, bonjour.
Bonjour.
Serge Bradet, bonjour.
Bonjour.
Et Isabelle Falardeau, bonjour.
Coucou.
Coucou. Présentez-nous vos sujets, Isabelle, pour commencer.
Bien, moi, je vais vous parler des femmes autochtones de régions éloignées qui vont maintenant pouvoir être accompagnées de quelqu'un pour accoucher, ce qui n'est pas rien. Et bien, je vais vous parler de surendettement. 5 signaux d'alarme à surveiller.
D'accord. Merci. Vous, Serge?
Une petite devinette pour commencer.
Ah oui?
Il y a 50 ans, c'était quoi?
C'était l'année de l'Expo.
Ben oui, l'Expo 60.
On en parle tellement. Hein?
Oui, on en a parlé beaucoup, beaucoup. Dans la presse de dimanche, il y avait deux articles. Ben, il y avait plusieurs articles. J'en ai retenu deux. Un qui s'appelle justement « Pourquoi on en parle encore? » Parce que ça a marqué vraiment les...
Tout le monde en parle encore.
Oui, oui, oui. Et un autre qui s'appelle « Le monde au milieu du fleuve » et qui relate la construction des...
Ah oui,
comment on a fait sortir les îles de terre.
Chouette.
En fait, pas toutes les îles, parce que Sainte-Hélène était déjà là, mais...
Elle était plus petite quand même.
Oui, un peu.
Hier, à la Place des Arts, il y avait un film en grande première, Expo 67, Mission Impossible, réalisé par Sylvain Cormier, le journaliste musical du Devoir. Paraît-il que c'est excellent.
Il paraît que c'est vraiment bon.
Oui, ça va repasser la semaine prochaine, je pense,
oui?
à la télé, Canal
bon,
D.
On oui, va oui, suivre ça.
Ah. Oui, oui.
Et vous, Daniel?
Je vais vous parler d'une nouvelle vie pour le disque La Llorona de Lassa de Célèbre.
Ah oui.
Et en deuxième partie, je vais vous parler d'improvisation pianistique.
Oh!
Oui.
Est-ce que vous en faites, vous, de l'improvisation?
Pas au piano.
Non? À la guitare?
À la guitare, oui.
Merci. Bien, vous nous ramenez les deux pieds sur terre, Isabelle. Vous nous parlez de surendettement. Hier, on parlait de surréservation avec un de nos collaborateurs.
Oui.
Et vous nous parlez de surendettement.
Ben oui, ben je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou l'autre semaine avant. En tout cas, je vous avais parlé de façon de refaire son dossier de crédit.
Oui.
Puis là, c'est un petit peu dans la même veine. Je vais commencer moi aussi par une devinette. D'après vous, quel est le taux d'endettement moyen des Canadiens?
Oh, c'est assez élevé.
C'est une bonne réponse.
C'est pas 1 000 ou 2 000
c'est non, mais en pourcentage, et là, je rejoins un peu votre sujet d'aujourd'hui, c'est 167 le taux d'endettement.
Alors, c'est quand même beaucoup. Quoi, ça inclut
la dette hypothécaire, par contre,
okay,
notamment
okay.
Là, les maisons. Mmh. Mais c'est quand même... donc, c'est 167 du revenu disponible. Donc, on a... 67 de plus de dettes que notre revenu disponible.
Ça veut dire que la plupart des gens vivent au-dessus de leurs moyens.
Voilà, oui. Exactement. Donc, si votre situation financière vous fait penser à un bateau qui prend l'eau, voici les signes qui devraient vous alerter avant de couler tout à fait. Donc, comme je le disais, le taux d'endettement est assez élevé. Autant dire que nous n'hésitons pas à avoir recours au crédit pour financer notre niveau de vie. Alors, les signaux d'alarme pour dire que vous allez bientôt sombrer dans la spirale du surendettement, si ce n'est déjà fait. Premièrement, vous compressez les dépenses essentielles. Lorsqu'on n'est plus capable de s'offrir des loisirs, qu'on a de la difficulté à payer ses médicaments et que l'on doit se serrer la ceinture pour l'épicerie, c'est le signe que quelque chose ne tourne pas rond. Si on doit choisir entre le Tylenol puis le Benadryl, là. C'est bon. Ensuite, vous jonglez avec les cartes de crédit. Hein. Si vous utilisez une de vos cartes de crédit pour payer l'autre carte ou pour payer le minimum, encore pire, le minimum requis sur l'autre carte, même pas au complet, bien, c'est vraiment très mauvais signe. Transférer les soldes d'une carte à une autre sans être en mesure de rembourser quelque montant que ce soit devrait aussi nous alerter. Qu'adviendra-t-il lorsque toutes les cartes seront utilisées jusqu'à la limite de crédit? Hein? Ça finit par avoir une fin, cette histoire-là. Ensuite, si vous retardez et sautez des paiements, si les factures s'accumulent, que vous les payez toujours à l'extrême limite de l'échéance ou que vous êtes obligé de sauter un paiement, attention, N'oubliez pas que votre dossier de crédit sera entaché si vos créanciers rapportent vos dettes aux agences de crédit. Alors, il faudra ensuite attendre plusieurs années avant que ces mauvaises créances ne soient effacées et passer par tout le processus que je vous expliquais la dernière fois. Ensuite, si vous empruntez à vos proches, hein, vos amis et les membres de votre famille vous fuient parce que vous ne cessez de leur emprunter de l'argent pour parvenir à joindre les deux bouts, c'est le signal qu'il faut réagir. Prenez des ententes avec eux, même si vous devez étaler les remboursements sur plusieurs mois. Vous allez vous sentir mieux aussi, là, parce que quand c'est la famille, c'est pas juste une dette, hein, c'est une dette morale. Moi, j'ai déjà été dans cette situation-là, puis on se sent toujours un peu coupable.
Ah oui, hein? C'est pas ça crée des drôles de relations
voilà,
aussi.
Voilà, exactement. Puis ensuite, dernier signe, et peut-être le meilleur signe, vous vivez d'une paye à l'autre. Hein. Si votre compte en banque est toujours à zéro quand votre chèque de paye est enfin déposé, c'est un très mauvais signe. Idéalement, vous devriez pouvoir épargner régulièrement, même s'il ne s'agit que de petites sommes, afin de pouvoir parer aux imprévus. Alors là, je vous ai donné des signes que ça allait mal, mais quoi faire pour changer la situation une fois qu'on a observé ces signes-là? Revenez à la base et faites un budget. On ne le dira jamais assez, ça a l'air tellement niaiseux, mais ça fait... Premièrement, c'est comme être au régime, avoir un budget. C'est-à-dire que juste le fait de dire, j'ai tant d'argent pour telle dépense, bien, de dire, cette fois-ci, non, je ne vais pas l'acheter parce que ce n'est pas dans mon budget, bien, au lieu de s'être privé, on a eu une victoire parce qu'on a réussi à respecter quelque chose. Je ne sais pas si je m'exprime bien.
C'est nous qui avons le contrôle.
C'est ça,
de la
c'est comme une sensation de contrôle. Donc, le fait de se fixer des objectifs et de. Plutôt que de dire, oh non, je me prive, plutôt que de dire, cette fois-ci, je me suis privée, mais après ça, peut-être que je vais réussir à. Dans un autre domaine, à dépenser un peu plus. Alors, l'excellent budget de l'ACF du Grand Portage qui est disponible pour tout le monde. L'ACF, là, c'est l'Association de coopérative d'économie familiale. Il y en a dans toutes les régions du Québec. Alors, budgetenligne.net, tout simplement. Je ne sais pas, malheureusement, s'il est accessible pour les non-voyants. Là, ça n'a pas l'air d'être super accessible, mais ils ont Ils ont maintenant aussi une application mobile Android ou Apple. Ça coûte de l'argent, par contre, alors que le budget en ligne, lui, il est gratuit.
On peut les rencontrer, il me semble. On peut prendre rendez-vous
on peut, si on veut. Ça, c'est si on est à l'aise, on aime ça avoir un budget en ligne, puis suivre nous-mêmes là, nos dépenses, puis pas être obligé de toujours écrire ça à la main dans un petit... Mon père avait une espèce de cahier avec plein de lignes, là, fait exprès
aussi.
Pour faire un budget, voilà. Mais maintenant, il est dans Excel, là. Il est avec ça, il a suivi son temps.
Mais c'est parce qu'il y en a qui ne savent pas comment faire un budget.
C'est ça, exactement. Donc, vous pouvez aussi... Puis la première étape, si vous n'avez jamais fait un budget, bien sûr, contactez l'Association de coopérative d'économie familiale de votre région. Il y en a dans vraiment toutes les régions. Vous n'avez qu'à faire une recherche sur un petit...
un site.
Sur Google, pour ne pas le nommer. donc, économie familiale et le nom de votre région ou de votre quartier. Il y en a deux ou trois à Montréal. Bref, ça, c'est la première étape. Payez comptant et fuyez l'argent en plastique. Hein? La meilleure façon de savoir que vous avez ce que vous avez réellement dans vos poches, c'est de payer avec du vrai argent et non pas avec de l'argent que vous avez virtuellement. Et puis, finalement, si tout va mal, prenez le taureau par les cornes et tentez de négocier des délais de paiement avec vos créanciers avant que vos relations ne se dégradent davantage. Ça leur démontrera votre bonne foi et évitera peut-être qu'ils ne vous rapportent aux agences de crédit. On y pense pas, mais même Hydro-Québec ou le téléphone, on peut les appeler puis leur dire, écoutez, je vous dois tant d'argent. Plutôt que de pas vous remettre du tout parce que je vais faire faillite, est-ce qu'on pourrait s'entendre sur une autre somme puis sur des paiements? Ma mère a déjà fait ça et donc c'est faisable.
Ils sont assez
plutôt
collaborateurs.
Plutôt que de se retrouver dans une situation où on va de toute façon pas être capable de payer puis on va se sentir toujours déprimé parce qu'on est en dette. Alors s'entendre avec nos créanciers, c'est toujours quelque chose qui est possible.
Hydro-Québec, Bell sont ouverts à ça?
Oui, généralement, en fait, dès que vous leur proposez une solution pour qu'ils finissent par être payés, ils sont capables de voir que c'est mieux vaut être payé plus tard que de ne pas être payé du tout.
Ben oui, c'est sûr.
Alors,
merci,
voilà.
Isabelle.
Bienvenue.
Daniel,
oui.
Vous improvisez sur votre texte? Non, pas vraiment.
Non,
c'est
je vais essayer
de... d'improvisation.
Je vais essayer de le suivre.
Oui, oui.
Je vous parle d'improvisation pianistique d'un autre type. C'est un article qui est paru dans la Presse Plus le 25 avril dans la section Art. L'improvisation ne vient pas exclusivement du jazz. Demain, en parlant de ce soir, dans le fond. Mm-hmm. Donc, ce soir, à la salle Bourgie, le Concours musical international de Montréal présente une soirée d'improvisation impliquant deux pianistes de formation classique, les Français Jean-François Ziegel et Bruno Fontaine. Tour à tour, ils créeront en temps réel la part pianistique de l'œuvre « Fantaisie pour piano fantôme et orchestre » de notre François Dompierre, et dont la partie orchestrale sera exécutée par l'ensemble I Musici de Montréal. Chacun des solistes improvisera donc sa partie et dirigera l'orchestre du piano. D'où cette entrevue avec Jean-François Ziegel, qui, en plus de faire carrière en tant qu'improvisateur sur les scènes du monde, s'avère un excellent communicateur doublé d'un pédagogue chevronné, professeur au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Donc, ce qui suit, c'est une entrevue. Question. Au fil des siècles, l'improvisation a été délaissée par la musique classique occidentale. Pourquoi cet abandon alors que les autres musiques classiques du monde, indiennes, arabes, persanes, etc., n'ont jamais exclu la pratique de l'impro? Alors la réponse de Jean-François. Tout simplement parce qu'au cours du temps, on a demandé aux musiciens classiques d'être en quelque sorte la mémoire d'un répertoire de plus en plus riche, de plus en plus varié. Alors que Mozart et Beethoven n'interprétaient en concert que leurs propres compositions, on demande aujourd'hui à un pianiste-interprète de posséder un répertoire immense allant de Bach et Rameau aux compositeurs d'aujourd'hui. Être capable de jouer correctement et parfois même par cœur ces centaines de sonates, de trios et de concertos laisse peu de temps au travail de l'improvisation qui comporte d'autres exigences et impose une pratique relativement assidue. De plus, improviser demande d'avoir au préalable étudié l'harmonie et la composition, ce qui est loin d'être le cas de la plupart des pianistes. Petite parenthèse ici. Parce qu'effectivement, pour
vous allez improviser, là.
Oui, là, j'ai improvisé un peu. Ben, je pense que c'est important de l'expliquer. C'est que pour bien du monde, improviser, c'est comme créer à partir de rien sur le champ n'importe quoi. Mm-hmm. Mais c'est pas ça. Ça répond à, quand même à des règles, puis il vient de le confirmer ici. Improviser demande d'avoir au préalable étudié l'harmonie et la composition. Donc, quand on improvise toujours dans des paramètres assez précis. Et quand on connaît les règles d'harmonie, l'improvisation, c'est quand même plus facile.
Ça prend une base, un canevas.
En résumé, improviser, c'est comme on est en train de composer sur place. Puis de la composition, c'est qu'on a fait plusieurs improvisations, puis on garde le meilleur et on le travaille un peu.
Oui, oui.
Donc, l'improvisation, c'est pas n'importe quoi lancer en l'air. Fin de la parenthèse. Bon, on continue. Comment votre formation scolaire vous a-t-elle accompagné dans votre quête de l'improvisation pianistique? Lorsque jeune homme, j'ai fait mes études au conservatoire, j'ai, comme tout pianiste, travaillé et joué en concert un certain nombre d'œuvres, y compris dans des festivals importants, ici en France, parce que c'est un Français. Mais j'ai vite compris que je préférais inventer ma propre musique et me consacrer exclusivement à l'improvisation et à la composition. Quel est le lien entre les œuvres que vous composez et votre travail d'improvisateur en concert ou en studio? Il y a un rapport entre les deux, c'est sûr, mais il y a aussi des manières de concevoir la polyphonie et l'harmonie que je n'utilise qu'en composant, jamais en improvisant. Et d'autre part, quand j'improvise, je mêle parfois à mon univers l'influence du jazz et des musiques du monde, ce que je fais beaucoup plus rarement lorsque je compose. Cela étant, j'ai d'abord enseigné l'écriture au Conservatoire de Paris avant de fonder, voici 15 ans, la classe d'improvisation au piano. Comment envisagez-vous cette création en tant que soliste pour l'œuvre de François Dompierre? En dehors du fait que j'aime beaucoup la musique de François Dompierre, j'ai moi-même écrit un concerto pour piano, improvisé et orchestre il y a 2 ans que j'ai intitulé « Concerto ouvert ». Je l'ai déjà joué une dizaine de fois et je pense que ce principe de mélanger dans une même œuvre l'improvisation et l'écrit plaît beaucoup au public. Quels sont vos improvisateurs préférés au piano? Peut-on parler d'influence majeure? Je pourrais bien sûr vous répondre Art Tatum ou Keith Jarrett pour citer ces noms connus, mais à la vérité, je ne pense pas que l'on puisse considérer l'improvisation classique comme un domaine séparé de la composition. Même pour improviser, je me nourris plus de Bartok, de Prokofiev, de Messiaen, de Shostakovich, pardon, j'ai de la misère avec celui-là.
On comprend pourquoi.
Que de l'écoute de mes collègues improvisateurs. Merci de ne pas le répéter. En fait, sommes-nous au terme de ce clivage historique entre musique savante écrite et musique savante improvisée? Je pourrais vous répondre que les deux sont complémentaires et qu'un improvisateur doit se nourrir de l'écrit pour enrichir son langage et ses possibilités. Sinon, je sais qu'il est toujours tentant de dire que l'on est contre les clivages, mais la réalité, m'oblige à dire que peu de gens ont la capacité d'élever l'improvisation au rang d'art.
Non, voilà. C'est vrai, hein? C'est pas donné à tout le monde.
Ça. Non. Donc, c'est ce soir à la salle Bourgie. À 19h30.
Très belle salle. Mmh.
Je suis jamais allé à cet endroit-là. Mmh. Apparemment, c'est très bien. Ouais.
Ah oui,
c'est sur Sherbrooke West. Ouais.
Mmh. Puis François Dompierre, il a tellement de talent.
Oui, oui, je serais quand même curieux d'entendre ça. Si j'ai une chance, je vais y aller.
Allez-y.
Un jour, quand tu viendras, nous de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Nous te ferons la fête sur une île inventée, sortie de notre tête, tout aux couleurs de l'été. Un jour, quand tu viendras, nous de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Dans ce pays de fable, entre deux océans, on fait à chaque table une place qui t'attend. Un jour, quand tu viendras, nous de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Déjà la terre est verte et la brise sent bon, nos portes sont ouvertes pour ceux qui arriveront.
Daniel Lautrec avec Un jour, on se propulse en 1967 avec cette pièce.
Oui, une création de Stéphane Venn. Il y a Michel Richard qui l'a chantée, mais Donald Lautrec, c'était un héros à l'époque.
Ah oui, c'était une des grandes vedettes avec Pierre Lalonde, Michel Louvain, cette génération-là.
Et Serge Bradet.
Ah ben là, vous, non, je ne pensais pas, non.
Vous étiez trop jeune.
Oh, un petit peu, oui.
Alors, on vous écoute sur l'Expo 67, évidemment, Serge.
Oui, alors, le 28 avril 1967, donc vendredi, ça fera 50 ans exactement, l'Exposition universelle de Montréal ouvrait ses portes au grand public. 6 mois et 50 millions de visites plus tard, elle laissait dans son sillon d'innombrables souvenirs et un héritage encore très présent à Montréal. Pourquoi parle-t-on encore d'Expo 67? Eh bien, c'est parce qu'elle est dans l'ADN de Montréal, ni plus ni moins. Et en voici quelques éléments marquants. Des visiteurs et dignitaires. Montréal a été le centre du monde durant ces 6 mois-là. Du visiteur anonyme aux plus grandes têtes couronnées, Expo 67 fut à une époque où voyager était encore un concept abstrait pour bien des gens et le point de convergence de la planète. Al Carter, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Pas vraiment, non.
Al Carter.
Carter.
C'est un habitant de Chicago et batteur de jazz de son métier. Il fut le premier visiteur payant d'Expo 67.
Ah oui? Ouais.
Il s'était présenté au guichet de la place d'accueil le 27 avril à 10 h, donc 24 heures avant.
Ah oui?
Oui.
Il voulait être sûr d'être le premier?
Exactement.
Comme pour, les ventes de billets d'un concert. C'est que ce monsieur-là,
toute sa vie, M. Carter a cultivé les premières. Outre Montréal, il fut le premier visiteur aux expositions de Seattle en 1962, New York en 1964, Osaka en 1970, Vancouver en 1986 et à plusieurs autres événements d'envergure. Il est mort le 9 juillet 1987 et figurez-vous qu'il a fait graver tous ses exploits sur sa pierre tombale.
Ah oui! Un original!
Oui, oui.
Mais il a dû avoir une belle vie quand même, parce que c'est vivant, les expositions internationales comme ça.
Un cadeau qui arrive en voiture. Eh oui, un beau cadeau qui arrive en voiture, celui des États-Unis. Jean-François Lisée raconte l'anecdote dans son ouvrage « Dans l'œil de l'aigle ». Le président américain Lyndon B. Johnson décide de visiter l'expo à la dernière minute. Or, en raison de l'imbroglio des préparatifs, le cadeau que les États-Unis remettent au Canada pour le centenaire de la Confédération, une sculpture de cristal et d'acier intitulée « La grande constellation canadienne » est transportée en voiture de Washington à Montréal. Parce que la reine a voulu faire un tour de mini-rail. La visite de la reine Élisabeth II à Québec en octobre 1964, 3 ans avant, avait très mal fini. On se rappellera le samedi de la matraque. Pour les plus jeunes, ça vous dit peut-être rien, mais pour nous,
j'en
les plus vieux...
L'expression,
ouais, samedi de la matraque. Il y avait eu des manifestations nationalistes et on avait matraqué les manifestants. La police avait matraqué les manifestants, alors ça a été marquant.
Il semble que les cyniques avaient fait un sketch.
Ah oui, beaucoup. Ah, oui.
Des pratiques qui se perdent aujourd'hui, c'est du poivre de Cayenne.
Ah, oui.
On a délaissé la matraque.
Ouais.
Non, depuis les manifestations qu'on avait. Non.
Alors, pour l'Expo 67, pas question de gérer une crise, évidemment. La reine est arrivée à Montréal à bord du yacht Royal Britannia, rien de moins, débarque dans les îles, qui est un territoire fédéral, et repart illico. Mais une fois à terre des hommes, elle demande à faire un tour de mini-rail non prévu au programme. Oh. Tout le monde lui envoie la main, sourit et prend des photos. Verra-t-on cet épisode dans The Crown? La belle série. Et petite note, j'étais moi à l'expo cette journée-là.
Ah,
et
oui?
J'ai vu la reine, j'étais en bas, le mini-rail est passé, puis la reine était un peu plus haut.
Est-ce qu'elle vous a salué?
Ben, elle a envoyé la main, je ne sais pas si c'est à moi particulier, mais en tout cas, elle a envoyé la main.
Est-ce que vous êtes allé dans le mini-rail?
Ah, ben oui, oui, le mini-rail plusieurs fois, à l'Expo Express aussi.
Il a continué d'exister après.
Oui, absolument, absolument, oui. Et Charles de Gaulle met le feu aux poudres. Mm-hmm. Évidemment, on se souvient.
Vive le Québec libre.
Oui, le 24 juillet 1967, c'est ma fête, le 24 juillet. Le général Charles de Gaulle, président de la France, lance « Vive le Québec libre » du balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal. Le lendemain, alors que le monde entier se remet de l'onde de choc provoquée par ce cri, de Gaulle est reçu en grande pompe à Expo 67. Après la cérémonie officielle, il part visiter 9 pavillons, France, Québec, Canada, États-Unis, URSS, Italie, Allemagne fédérale, Grande-Bretagne et la place d'Afrique. Alors voilà pour les grands, grands visiteurs. Maintenant, parlons architecture et design. L'Expo a été un chef-lieu de création culturelle, architecturale et de design dont découlent des innovations, telles la première version d'IMAX avec le film La vie polaire. En voici d'autres. Habitat 67. Mm-hmm. Évidemment, ça a été la grande signature.
Tellement beau.
Oui. Un des plus beaux héritages de l'exposition, le complexe Habitat 67, est, faut-il le rappeler, le premier projet dans la carrière professionnelle de Moshe Safdie, issu de sa thèse intitulée « A Three-Dimensional Modular Building System » faite à l'Université McGill. En 2013, M. Safdie affirmait que certains éléments et principes de ce projet l'inspiraient depuis toujours. Le complexe est formé de 354 modules formant 148 appartements. À l'origine, cependant, il devait en compter un millier, mais le gouvernement fédéral, principal bailleur de fonds de l'exposition, a accepté un concept plus modeste. La carrière de Michel Dallaire a démarré à Expo 67.
Ah oui, le designer?
Oui, designer industriel à qui l'on doit le Bixi. La torche des Jeux olympiques de 76 et l'immobilier de la Grande Bibliothèque a commencé sa carrière en travaillant sur des projets pour Expo 67. Et au retour de ses études en Scandinavie, il se joint à la firme Julien Hébert et travaille à l'aménagement du pavillon du Canada. Parce que ces pavillons ont eu une deuxième vie, beaucoup de pavillons ont une deuxième vie. Alors, le pavillon de l'URSS fait aujourd'hui partie du centre pan-russe des expositions à Moscou. On l'a ramené à Moscou. Il est pas là. Ensuite, le pavillon de la Tchécoslovaquie, c'est où il se trouve? Pavillon dont on parlait beaucoup.
En Tchécoslovaquie?
Non, 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 il se trouve à Terre-Neuve.
Ah oui? Ah,
oui.
C'est pas rendu.
Et il est devenu le centre Gordon Pinsent pour les arts et la sculpture de Grand Falls, Windsor. Alors, c'était quelques-uns. Beaucoup d'œuvres également culturelles, beaucoup de peintures, de sculptures ont été réalisées pour cette exposition. Et beaucoup sont ont été redonnés à Montréal, mm-hmm. replacés à Montréal, mm-hmm. à différents endroits. Entre autres, pour vous en nommer une, parce que ma chronique va vers la fin, le stabile de Calder, que vous avez l'impression d'avoir déjà vu une ou plusieurs de ses œuvres. Elles sont exposées dans différents endroits. Il était évidemment à la place de l'expo, là, la mm-hmm. Terre des Hommes, là, la place de... Comment est-ce qu'on l'appelait, donc? Où il y avait des spectacles, on allait danser. Là.
Oui, oui, Place des Nations.
Ouais, Place des Nations, merci, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Mm-hmm. Alors, voilà.
Bon, c'est vraiment résumé. Intéressant. Je me demandais mm-hmm. si on avait déménagé tous les pavillons. Bon, on sait qu'ici, il y en tous. A encore. Là. Ouais, il existe la Biosphère, c'est un pavillon.
Biosphère.
Casino de Montréal.
Casino de Montréal et le Québec. Ensuite,
Mais il y en a certains qu'on a démantelés, puis
oui,
c'est
absolument.
Fini.
Oui, absolument. Oui, c'est fini.
Ah, bon, d'accord.
La Grande-Bretagne, ça, je l'ai nommé tout à l'heure. Enfin, il y en a quelques-uns. Mm-hmm. Je pense que dans le deuxième article, on en parle.
OK, on ne va pas brûler.
Alors, c'est à suivre, ouais. cher Serge.
Pavillon de la Yougoslavie, je viens de le retrouver.
Oui, mais vous avez dit qu'il était à Terre-Neuve.
Non, pas la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie.
Ah oui, on se mélange toujours.
Ouais, ouais, ouais. Ensuite, Pavillon des jeunesses musicales du Canada, qui est à Harford.
Oui.
Ouais, la maison Châtelaine, il y avait la maison Châtelaine, et se trouve à Owen Sound, dans le sud de l'Ontario, entre autres. Ouais. Mm-hmm.
Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre avec vous, mm-hmm. Serge, et aussi Isabelle, ainsi que Daniel. Restez avec nous. C'est l'émission Les Voix de service magazine. C'est Hélène Denis qui vous souhaite la bienvenue. Un grand merci d'être à l'écoute de Canal M en ce mercredi 26 avril, à deux jours du 50e d'Expo 67. Mmh, mmh. Mmh. Ça va vite.
Eh oui, oui.
Ils sont rendus ou bien trop gelés ou bien trop chauds. Tous mes amis sont disparus, et moi non plus je me reconnais plus. On est 10 000 à rue Saint-Paul, avec le blues, la métropole.
En 67, tout était beau. Hein?
Ouais, tout était beau. Êtes-vous d'accord avec ça?
Absolument, absolument, absolument. C'est pour les gens qui ont connu cette époque-là, c'est vraiment pour la génération qui a connu cette époque-là, là, c'était quelque chose, Expo 67.
Tout était à faire. C'est le début d'un temps nouveau, comme le chantement des clos.
C'était l'espoir qui était beau, dans le fond. Mm-hmm.
C'était en plein dans la Révolution tranquille.
Avoir su, mais non, c'est pas vrai. Alors, on vous écoute encore suite et fin, mais en même temps, il n'y a pas de fin, là, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Expo 67.
Mm-hmm. Toujours dans la presse plus de dimanche, d'André Duchesne, le 12 août 1963, politiciens, dignitaires et religieux inaugurent les travaux d'aménagement d'Expo 67 dans les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, quand on inaugurait quelque chose ou qu'on commençait quelque chose, l'évêque, à ce moment-là, c'est le cardinal Léger, est archevêque de Montréal, bénissait les travaux. Hein.
C'était important.
Je me rappelle, à l'ouverture du métro, on avait vu aux nouvelles le cardinal Léger bénir le...
Même en pleine Révolution tranquille, on continuait de bénir.
Ben oui, parce que c'était pas...
pour ça que les
la Révolution commençait, mais...
C'est ça, parce qu'il avait béni le pont Champlain.
Non, mais c'est ça, c'est peut-être pour ça que les choses durent plus aussi longtemps aujourd'hui, parce qu'on a arrêté de les bénir.
Peut-être,
les viaducs et tout ça.
Ça se peut.
Alors, moins de 4 ans plus tard, tout est prêt pour accueillir le monde sur le site de Terre des Hommes, au milieu du fleuve. C'est un exploit, construire tout ça en 4 ans. Les portes ouvrent au public le 28 avril 1967. Donc, commençons par... Montréal obtient la présentation de l'Expo en 1962, après le désistement de Moscou, parce que c'était Moscou qui l'avait eu. Et Moscou, ben ils ont dit, ben là, c'est trop serré, on n'a pas le temps, tout ça. Et ils ont dit, on le fait pas, on se désiste, on démissionne.
Merci Moscou.
Absolument, ben oui, parce qu'on ne l'aurait jamais eu. Et ça a été donné à Montréal. Parce que Montréal est arrivé deuxième
lors du concours,
l'espèce de vote qu'il y avait eu. Et ils sont arrivés deuxième, donc ils n'ont pas refait le vote, ils l'ont donné à Montréal automatiquement. L'événement coïncide avec le centenaire de la Confédération du Canada, donc on va beaucoup parler en juillet, parce que c'est le 1er juillet. Inspiré d'un ouvrage de Saint-Exupéry, le thème générique « Terre des hommes » est choisi pour célébrer l'optimisme et la solidarité humaine. Le logo est dessiné par le Montréalais Julien Hébert. Il est fait de pictogrammes d'hommes debout. Vous souvenez du logo?
Tellement beau logo.
Donc, d'hommes debout, bras tendus et en paire, symbole d'amitié autour du monde. Il sera adopté en dépit d'une vive contestation à la Chambre des communes.
Ah oui?
Oui. La chanson thème, un jour... D'ailleurs, le petit aparté, l'exposition a été beaucoup dénoncée par le Canada anglais. Surtout l'Ontario, surtout Toronto.
Mais je pense qu'il ne voulait pas que ça s'appelle...
entre autres,
Expo,
ouais.
Non. Hein, ça se pose à Fair
Exhibition 67, oui. Et les... Ben, on l'a vu, tout le monde en parle dimanche. Monsieur de Gaspé-Gobin, Jasmine, on dit non, écoutez, c'est à Montréal, c'est français, ça va être Expo 67.
Et en plus, le Canada célébrait son centième, là.
Oui, absolument, oui. Donc, la chanson thème un jour, est signée Stéphane Venn et chantée par Donald Lautrec, comme on l'a entendu tout à l'heure. Pour donner l'impression de voyager, les visiteurs reçoivent un passeport à faire tamponner d'un pavillon à l'autre. Auriez-vous gardé vos passeports?
Moi, j'en avais pas.
Oui, ah.
J'étais trop jeune.
Ah, les parents en avaient.
Oui.
Oui.
Moi, j'ai retrouvé dans les... J'ai une tante qui est décédée il y a quelques années. Dans, ses, dans les papiers, j'ai retrouvé ça. Mm-hmm. Le passeport d'Expo 67.
Puis là, il y en a pour, en 2017 pour souligner le 50e qui sont disponibles en version numérique ou papier.
Oh, c'est intéressant.
On en parlait hier avec Sylvie Dion.
Après, le site, le lieu, les îles. Après avoir étudié plusieurs sites, on a parlé de faire l'exposition à Pointe-Saint-Charles, à La Salle, à Saint-Léonard, les organisateurs décident de tenir l'expo dans les îles du Saint-Laurent. On agrandit l'île Sainte-Hélène et on crée l'île Notre-Dame grâce aux 25 millions de tonnes de terre excavées en draguant le fond du fleuve et durant la construction du métro. On a récupéré une partie de la terre du métro.
Hey, tout un chantier.
Ah, c'est énorme. Ah. Oui, oui, oui. Moi, ma grand-mère disait, ça va s'effondrer, cette affaire-là. Elle n'est pas là. Ça ne s'est jamais effondré.
Bon.
L'aménagement est terminé le 1er juillet 1964 et la construction des infrastructures peut commencer. Donc, ça fait 3 ans. Le site de 253 hectares accueillera 847 édifices, quelque chose, hein, dont les pavillons de 62 pays et organisations. 12 000 arbres et 5,75 km de chemin de fer pour l'Expo Express. Le financement est divisé ainsi, 50 % du fédéral, 37,5 % du Québec et 12,5 % de la Ville de Montréal. Expo 67 enregistrera un déficit d'exploitation de 210 millions, largement épongé par les retombées économiques. Mmh.
Ah oui, il y en a eu beaucoup d'argent. De l'argent qui s'est brassé, mais de l'argent qu'on a fait grâce au succès de l'événement.
Tout le monde qui est venu à Montréal, tous les visiteurs qu'il y a eu, l'hôtellerie, la restauration, la construction, c'est énorme comme retombée. Ensuite, même si la majorité des pavillons sont démantelés dans les années subséquentes, une poignée sont encore debout aujourd'hui. Plusieurs autres sont restés dans nos mémoires. Il y a entre autres le pavillon, le pavillon des États-Unis, la boule, là, qui existe encore.
Mais c'est la biosphère.
La biosphère, c'est ça. Ça a été fait par M. Buckminster Fuller.
C'est spectaculaire.
Oui. Le pavillon, bien évidemment, la France, c'est le pavillon du Québec, c'est aujourd'hui le Casino de Montréal. Le pavillon du Canada. Assez particulier, c'est une pyramide inversée. Oui, on se demandait comment ça tenait debout.
Mais oui.
Est-ce que ça existe toujours?
Le Canada?
Y a-tu démantelé?
Daniel, comment ça... c'est pas?
Ben, y a-tu encore là?
Le pavillon?
Le Canada, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas
allé. Ça ne me dit rien.
Non? Oui, OK. Ensuite, le pavillon de la Grande-Bretagne, lui, il était... il reflétait ce qu'était la Grande-Bretagne physiquement. C'était une tour entourée d'îles. Ben, ça rappelle la géographie du pays. Le pavillon de l'URSS, mais évidemment, il y avait une immense fossile devant le pavillon. C'était très impressionnant. Et puis, avec une toiture en verre opaque et ses pyramides de différentes tailles, le pavillon de l'Ontario lui avait fière allure.
Il y avait le pavillon de la jeunesse, mais là, ça, ça n'a pas rapport avec un pays. Là.
Non, c'était vraiment pour la jeunesse parce que c'était, on voulait centrer ça. C'était un début de Terre des Hommes, de créer des liens pour la jeunesse. Et il voulait un lieu où se rencontrent les jeunes.
C'est une bonne idée.
Ben oui.
Ensuite, le maire de Montréal, Jean Drapeau, est fier d'accueillir de nombreux invités officiels durant l'Expo 67. Pourriez-vous en nommer quelques-uns?
Mais là, vous en avez nommé tantôt.
Charles de Gaulle, la reine d'Angleterre.
Ben oui. Oui, mais ensuite?
Jackie Kennedy, à l'époque.
Est-ce qu'elle est venue? Je pense qu'elle est venue à
Montréal. Elle est venue incognito.
Et aussi une princesse très célèbre.
Grace
Kelly, oui. Un empereur, l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié.
Qui est connu.
Oui, évidemment. Et aux invités officiels, il faut aussi ajouter de nombreuses personnalités du spectacle. Saviez-vous qu'Ed Sullivan a enregistré 2 émissions sur le site de l'Expo?
Oui.
Il y a eu Maurice Chevalier, Robert Kennedy, Marlene Dietrich, Bing Crosby et Harry Belafonte.
Hey, ça a attiré plein de gens.
Ah, c'était énorme. Il y a eu également le Festival de Montréal qui accueillait les troupes d'opéra à travers le monde. La Scala de Milan est venue, le Covent Garden, l'Opéra de Stockholm, l'Opéra de Vienne, l'Opéra de Parme.
Alors, Montréal était connu à travers le monde.
Ça a vraiment mis
la ville sur la map monde.
Oui. Ensuite, dans les grands travaux, évidemment, il y a la construction du métro. Ça demeure l'héritage le plus important laissé dans le sillage de l'exposition. Certes, sa construction s'est amorcée 6 mois avant l'optation de l'expo, mais quand on a su qu'on faisait l'expo sur l'île Sainte-Hélène, on a ajouté la ligne jaune, Montréal-Longueuil. Et Ailleurs, ben, vous avez également l'autoroute des Carrés, tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, qui ont été construits durant la même période. Ben, les équipements de la ronde, et, ça fait toujours partie du paysage de Montréal. Ensuite, en terminant, on trouvait à Expo 67. Que trouvait-on à Expo 67? Bien sûr, plusieurs pavillons présentaient les plus récentes innovations en matière scientifique et technologique. Par exemple, le film « La vie polaire » présenté sur 11 écrans et un tapis roulant au pavillon « L'homme interroge l'univers » était l'ancêtre du cinéma IMAX. Plusieurs pays ont présenté les œuvres de leurs peintres et sculpteurs les plus avant-gardistes ou les plus populaires. C'est par exemple à Expo 67 qu'a été présenté pour la première fois le tableau « Voice of Fire » de Barnett Newman, qui a fait scandale lorsqu'il a été acheté par la Galerie nationale du Canada en 1989. Je pense que c'est trois bandes de couleurs, hein, celui-là qu'on parle. On trouvait aussi à l'expo des œuvres de Jasper Johns, Henry Moore, Nicky de Saint-Phalle et Armand Vaillancourt, mais l'œuvre qui marquera à jamais l'Exposition universelle de Montréal est « L'homme », ce grand stabile d'Alexander Calder, offert à la Ville de Montréal par la société minière INCO.
Tous ceux qui participent au pique-nique électronique le connaissent bien, cet homme de Calder.
Oui.
Et puis, est-ce que vous saviez que les porte-paroles cette année, pour les activités du 50e de l'Expo 67 sont Louise Latraverse, qui a bien vécu les années 60, et Philippe Fémioux, dont les parents se sont rencontrés à l'Expo. Père africain, mère québécoise ou l'inverse. Là.
Ah, je ne savais pas.
Oui. Merci.
Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Nous te ferons la fête sur une île inventée, sortie de notre tête, toute aux couleurs de l'été. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras...
Un jour, cette fois chanté par celui qui a créer la chanson, Stéphane Venn, avec son roulement de R à la Jacques Brel. Isabelle, maintenant, vous nous parlez des femmes autochtones enceintes qui auront maintenant droit à un accompagnateur. Bonne nouvelle.
Oui. Bien, on pourrait dire qu'il était temps. Donc, c'est un article que j'ai pris sur le site de Radio-Canada le 10 avril par Radio-Canada et la presse canadienne. Les femmes autochtones qui doivent quitter leur réserve pour accoucher pourront désormais choisir quelqu'un pour les accompagner. C'est la ministre fédérale de la Santé, Jim Philpott, qui a fait l'annonce de la modification d'un règlement extrêmement improductif, selon ses mots, selon lequel seul le voyage de la future mère était remboursé. Ottawa financera désormais le voyage d'un accompagnateur choisi par cette dernière. Il s'agit d'un changement de politique majeur, nous affirme la ministre, qui ajoute que l'ancien règlement forçait de nombreuses femmes autochtones à accoucher seules, loin de leur famille et dans un environnement étranger. Si vous avez déjà eu un enfant, c'est déjà...
Mais c'est pas très humain.
Non, mais c'est déjà une expérience traumatisante, même si votre mari est à côté, là. Donc toute seule dans un endroit étranger, c'est vraiment difficile. Et selon Mme Philpott, l'ancien système était la source de toutes sortes de répercussions négatives. Elle dit avoir reçu des témoignages de médecins qui travaillent dans les communautés isolées du nord du Manitoba, qui affirment que certaines femmes ont tellement peur de quitter leur communauté seule qu'elles cachent leur grossesse, ce qui les prive de soins prénataux, évidemment, puisque si on n'admet pas notre grossesse avant le moment d'accoucher, ben il y a plein de choses dont on est privé, la préparation, des conseils de santé, etc. Et évidemment, la détection de problèmes de santé éventuels pour lesquels le médecin pourrait
nous aider. C'est mieux de le dire.
Ce qui arrive à la naissance a des conséquences sur toute la vie, pour toute la famille. Alors, une expérience saine et positive lors de l'accouchement est particulièrement déterminante. C'est encore la ministre Jane Philpott qui nous dit ça. Trop souvent, les cris qui retentissent dans les Premières Nations sont des cris de mort, pas des cris à la naissance. C'est ce qui m'a menée sur une voie qui vise à ramener les cris de naissance dans nos communautés. Par ailleurs, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 83 millions de dollars au programme de santé maternelle et infantile destiné aux Premières Nations et aux Inuits. Et bien que la nouvelle soit, on peut se le prévoir, soit bien accueillie par les communautés autochtones, certaines voudraient que le programme soit élargi pour inclure toutes sortes, toutes les personnes malades qui doivent parcourir des distances importantes pour se faire soigner. Parce que là, on parle des femmes enceintes, mais on nous parle notamment du cas des personnes en fin de vie qui doivent quitter leur communauté pour recevoir des soins palliatifs. Ça non plus, c'est pas facile.
Certainement
ça veut dire qu'une personne qui veut accompagner un proche en fin de vie doit passer par le programme de prestations de compassion, déplore le Dr. Michael Curlew, qui est médecin de famille à Sioux Lookout, dans le nord-ouest de l'Ontario. Avoir un accompagnateur, quelqu'un avec eux, ça fait partie des soins de base, selon lui. Alors, la ministre Philpott avoue que la politique pourrait être améliorée à cet égard. Dans un processus étape par étape, nous devons nous assurer de rendre justice et équité aux peuples autochtones du Canada.
Merci.
Merci. Bonne nouvelle qui, on l'espère, sera suivie par d'autres.
Oui. Quelle belle voix, hein? Ça nous remue.
Oui.
Daniel, vous allez nous parler d'un album important. Oui. On entendait un extrait justement de cette voix dont on s'ennuie beaucoup, celle de Lassa de Sela.
Absolument.
Et un album qui s'intitule La Llorona.
La Llorona, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le prononcer.
Moi non plus.
C'est en espagnol.
Il y a deux L au début.
Oui, c'est un article que j'ai trouvé dans Le Devoir qui s'intitule 20 ans plus tard, la pleureuse de Lassa ne cesse d'émouvoir. Une nouvelle vie pour la Llorona de Lassa de Sela. En 1997, avec son premier album, La Llorona, Lassa de Sela donnait un électrochoc musical au Québec avec son chant déchirant posé sur les ambiances chaudes mais percussives d'Yves Desrosiers. 20 ans plus tard, l'étiquette Audiogramme profite du Record Store Day, ça je vous en parlerai une autre fois,
Mais là, relancer, ça, on a fêté ça en fin de semaine passée.
Oui, oui, samedi dernier, oui. Rapidement, là, pour faire un...
La journée du disque.
C'est ça, la journée du disque. Oui. Puis donc, Audiogramme a profité de ce moment-là pour relancer le chef-d'œuvre en format vinyle. Parce que le Record Store Day, ça souligne aussi le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent des vinyles. Mm-hmm. C'est un petit peu aberrant, mais bon, c'est comme ça.
Oui.
Les premières secondes du disque de La Llorona qu'on a entendu, de Lassa de Sela, suffisent pour faire remonter les souvenirs et l'émotion qui vient avec eux. Il y a d'abord le bruit des gouttes qui tombent, le violon lancinant et déchirant, puis un motif de guitare arpégé et les percussions. Le coup de grâce vient après quelques secondes, la voix légère mais lourde d'émotion qui souffle, et là je vais vous le traduire, la première phrase qu'on a entendue, ça dit « Je pleure, la face contre le mur, la ville s'éteint ». parce qu'on entend la voix, on voit que c'est un peu triste, mais on comprend pas trop ce qu'elle raconte.
Mm. On ressent la peine, l'émotion.
L'album La Llorona, ou La Pleureuse, est le fruit de deux trajectoires distinctes qui se sont retrouvées quelque part au milieu. Celle de Lassa, alors une jeune chanteuse méconnue qui rêvait de faire carrière, et celle de Desrosiers, qui avait déjà plus de 10 ans de métier, entre autres avec Lassa l'affaire avec Jean Leloup, et qui cherchait une façon de se réinventer. Après une première rencontre rapide en 1991, grâce à une amie commune, Yves Desrosiers et Lassa de Sella se recroisent l'année suivante, toujours grâce à cette entremetteuse. C'est le début de l'histoire, finalement, lance Desrosiers. Lassa, alors à peine âgée de 18 ans, se demande si elle restera à Montréal, mais parle de son envie de chanter. « Mon amie me dit qu'elle chantait pour le fun un peu de vieux jazz comme celui de Billie Holiday. Et puis, je lui ai donné mon numéro sur un carton d'allumettes. Ça a pris une couple de mois avant qu'on puisse se donner rendez-vous et que j'aille l'écouter chanter. » J'ai amené ma guitare chez elle dans sa cuisine. C'était en haut dans un appartement du boulevard Saint-Joseph. Au début, Yves Desrosiers reste sur sa faim. La jeune Lassa, encore verte, ne l'impressionne pas sur le plan technique quand elle interprète ses standards américains. Mais un je ne sais quoi de différent dans sa voix lui ordonne de rester patient. Au fil des semaines, le duo troque ses reprises américaines pour du jazz brésilien. La proposition musicale bougera encore avec les mois au fur et à mesure que la native de l'État de New York ouvrira son jeu. Arriveront dans le décor les rancheras mexicaines que son père écoutait et qui deviendront les racines de La Llorona. De son côté, Yves Desrosiers travaillait sur son projet personnel, explorait le jeu des percussions comme le faisait Tom Waits. Il a finalement décidé de mélanger son projet à celui de Lassa. L'album comme tel est né d'une rencontre dans le hall d'entrée du défunt Spectrum, près du petit bar où tout le monde se tenait, rigole Desrosiers. Il y rencontre le directeur artistique d'Audiogramme, Denis Wolfe, qui veut bien lui donner un coup de main. Une rencontre et une maquette plus tard, Lassa de Sella et Yves Desrosiers ont un contrat de disque. Le duo est rejoint en studio par le bassiste Mario Légaré, qu'on connaît bien, qui a joué avec Michel Rivard, Octobre et ben plein d'autres. Le percussionniste François Lalonde, l'accordéoniste Didier Dumoutier et même une jeune violoniste, Mara Tremblay, que l'on connaît aussi. S'affronte le côté très réfléchi et émotif de Lassa et l'approche concrète et plus terre-à-terre de Desrosiers. Ça prenait un équilibre, c'est un disque de couleurs, d'atmosphère et de couleurs, et tu mets l'âme de Lassa par-dessus ça, et ça fait quelque chose de très bien, de très gros. La Llorona est rapidement devenue un succès. Le premier mois, 10 000 disques sont vendus. À ce jour, selon Desrosiers, l'album aurait trouvé près de 600 000 preneurs dans le monde. L'album a été récompensé par le prix du meilleur disque de musique du monde à la Disque en 1997, en plus d'être primé au prix Juno l'année suivante. Et si le Québec a craqué pour Lassa, l'Europe, en particulier la France, avait aussi donné beaucoup d'amour à la chanteuse passionnée. Audiogramme lancera, donc c'est samedi dernier, a lancé samedi une édition limitée en format vinyle de ce disque, accompagnée d'illustrations inédites et de 3 peintures originales de Lassa. C'était quelqu'un qui avait cette espèce d'âme qui projetait, une âme qui projetait, lance Yves Desrosiers. Elle faisait juste ouvrir la bouche et les gens étaient accrochés à ses lèvres. Et on a pu le constater tantôt dans ce qu'on a écouté.
C'est vrai qu'elle avait un grand charisme. J'ai eu la chance de la voir en spectacle au Corona. Ah. Et elle était hypnotisante. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, elle n'est plus de ce monde.
Ben oui. Non.
Lassa de Sella s'est éteinte en 2010, emportée par un cancer.
Oui. Voilà.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
c'est tellement beau cette pièce. Ça nous donne vraiment envie de redécouvrir cet album. Maintenant, on revient à Expo 67 parce que vous nous parliez,
rapidement,
vous voulez nous parler
oui,
du spectacle Mission Impossible.
Oui, c'est sûr que ça intéresse. Le documentaire Expo 67, Mission Impossible, va être diffusé ce dimanche, le 30 avril à 19h au Canal D.
Parfait. Et puis on termine avec vous, Serge. Une
citation. Oui, un Churchill.
Un Churchill.
Oui. Churchill disait une pomme par jour maintient. On dit qu'une pomme par jour maintient le docteur à distance. Et Churchill répondait oui, à condition de bien viser.
Merci beaucoup, Daniel Lachance, Serge Bradet, Isabelle Falardeau. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.